Si vous venez de nous rejoindre sur Lux Radio, c'est Heure Essentielle là, qui vous accompagne. Et tout de suite, votre rendez-vous, Mon Corps, Ma Vie, avec Hicham Benabastargi, un gynécologue obstétricien à Casablanca. Il vient de nous rejoindre en studio. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on s'intéresse aujourd'hui à la galactorrhée, ce que l'on peut aussi définir comme la lactation anormale. Alors, avant de vous laisser la parole à Sma, j'invite aussi les auditeurs à réagir et à poser leurs questions sur l'application Lux Radio.
La galactorrhée se définit par la sécrétion et l'écoulement de lait par la glande mammaire chez un homme ou chez une femme qui n'allaite pas. À quoi est due justement cette lactation anormale ?
Elle a plusieurs causes. Il y a des causes tumorales, il y a des causes médicales. Alors la galactorrhée, elle vient de, en fait, la physiologie de la lactation, c'est une sécrétion d'une hormone au niveau de la tête, au niveau de l'antéhypophyse, c'est une glande au niveau de la tête, qui va sécréter donc la prolactine. La prolactine, c'est une hormone donc, qui est destinée à la production de lait et qui est excrétée par une autre hormone qui est l'ocytocine. Donc tout mécanisme qui va entraîner une augmentation de la prolactine va donc nécessairement augmenter donc la sécrétion de lait, l'apparition de lait, donc d'une lactation anormale. Et donc chez les hommes, ça les effraie parce qu'ils ne sont pas habitués justement à avoir du lait qui sort au niveau
du sein. J'avoue, j'ignorais que du lait pouvait sortir d'un mamelon d'un homme.
C'est possible. Mais en même temps, donc chez la femme qui allait, elle connaît, et à la rigueur, ça peut l'inquiéter à certains moments, parce que après l'allaitement, il peut y avoir toujours un petit résidu de lait, d'activité. Et donc, plusieurs années après l'allaitement, elle peut être stressée parce qu'elle va avoir une goutte de lait, la pression qui va sortir. Mais en dehors de l'allaitement, en dehors de la grossesse, donc une femme qui va avoir du lait, qui va sortir spontanément, c'est anormal. D'accord. Donc, il faut rechercher la cause.
D'accord. Et ça n'a rien à voir avec l'écoulement du mamelon?
Non, alors les autres écoulements du mamelon, il peut y avoir des écoulements de sang, attention, ça pourrait être un cancer, il faut absolument s'inquiéter devant un écoulement rouge ou noirâtre de sang. Après, il y a d'autres maladies, des infections des canaux galactophores, qu'on appelle les galactophorites, et qui peuvent donner un écoulement purulent ou sale, je veux dire, mais sans sang.
Et cette galactorrhée, on peut la percevoir à la palpation?
Non, ben en fait, vous sentez qu'il y a une goutte de lait, de blanc qui va sortir du mamelon. Et bien sûr aussi, on peut la provoquer à la palpation. Les femmes qui vont souvent se palper les seins, c'est une bonne chose, mais qui va donc à certains moments avoir une sortie facile de lait ou qui va tacher le soutien-gorge, qui va tacher donc le chemisier. Et donc, ça les inquiète.
Hicham Benabastargi, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. Donc vous parliez des mécanismes qui vont faire qu'on va avoir justement cette galactorrhée. Lesquels ?
Il y a trois mécanismes. Soit une tumeur sécrétante de l'antéhypophyse, de l'hypophyse de cette glande. Donc, c'est des tumeurs qui vont sécréter de la prolactine, donc qui va provoquer de la galactorrhée. Soit des médicaments. Il y a beaucoup de médicaments, les opiacés, la morphine, la codéine, des antidépresseurs, des antihypertenseurs centraux comme l'alpha-méthyldopa. Il y a plein de médicaments. Donc les psychotropes, les neuroleptiques, il y a plein de médicaments qui peuvent donner justement la pilule œstroprogestative, parce que les œstrogènes peuvent donner, augmentent la sécrétion de prolactine. Après, il y a d'autres maladies comme l'hypothyroïdie sévère, l'insuffisance rénale et des séquelles, par exemple un traumatisme crânien avec des séquelles au niveau de la tige pituitaire, c'est-à-dire qui communique entre l'hypothalamus et l'hypophyse, qui va entraîner donc un freinage de la dopamine et qui va entraîner par réaction donc de la sécrétion de prolactine.
Et la première cause dont vous parliez, les tumeurs, bénignes ou
c'est... Oui, c'est des tumeurs bénignes, c'est ce qu'on appelle des adénomes à prolactine. C'est assez fréquent, je crois, 1 pour 1000, femmes ou hommes.
D'accord.
C'est assez, plus chez les femmes que chez les hommes. Mais donc c'est des tumeurs bénignes, mais quand même, quand elles grandissent... Alors il y a deux types d'adénomes. Il y a les micro-adénomes, c'est-à-dire qui sont très petits, qui font moins de 10 cm. Et qui sécrètent quand même sans trop grandir. Et il y a les macro-adénomes qui font plus de 10 cm. Et ces macro-adénomes, vous savez, la boîte crânienne et la selle turcique, c'est-à-dire la zone où il y a cette hypophyse, elle n'est pas extensible, c'est de l'os en bas. Et donc le fait de grandir, ces macro-adénomes vont donner des signes cliniques, éventuellement de troubles visuels, de céphalées. Et donc quand on a ça associé à une galactorrhée, eh bien, il faut absolument faire un scanner pour rechercher, un scanner ou une IRM cérébrale, pour rechercher un adénome, un macro-adénome.
Très bien. Et quelles vont être les conséquences de cette galactorrhée sur la femme?
Alors, sur la femme, les conséquences, aujourd'hui, c'est que la prolactine, c'est la même physiologie que de l'allaitement. La prolactine, eh bien, elle va bloquer, elle va avoir un effet de bloquer les autres hormones synthétisées par l'hypophyse, qui sont la FSH et la LH, qui contrôlent le cycle menstruel. Donc, en plus de cette galactorrhée, c'est-à-dire donc, cette survenue de lait dans le sein, il va y avoir d'autres signes, notamment l'aménorrhée, c'est-à-dire donc la disparition des règles,
l'absence de cycle,
voire juste des troubles du cycle, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec donc un cycle qui va être plus long ou une hypoménorrhée, c'est-à-dire des diminutions de la sécrétion et les conséquences de la carence en œstrogène. Il peut y avoir une baisse de la libido, il peut y avoir donc de la sécheresse cutanée, de la sécheresse vaginale par rapport à ça, donc les troubles de la libido, la sécheresse vaginale. Ce sont les autres signes, mais les deux signes majeurs.
Dyspareunie aussi.
La dyspareunie, c'est la conséquence de la sécheresse vaginale.
D'accord.
Par la carence en œstrogène. La sécrétion de prolactine entraîne l'absence d'ovulation, l'absence de stimulation des follicules ovariens, donc l'absence d'ovulation, absence d'œstrogène, donc absence de règles et sécheresse vaginale, dyspareunie, baisse de la libido.
Mm-hmm. Et l'impossibilité aussi d'avoir des enfants.
Bien sûr, parce que vous avez une aménorrhée, elle n'ovule, la femme n'ovule pas. Et donc, c'est une cause, oui, qu'il faut rechercher dans le bilan d'infertilité. On demande toujours une prolactine pour s'assurer qu'il n'y a pas une hyperprolactinémie et qu'il n'y a pas une cause particulière qui fait cette sécrétion de prolactine et donc cette infertilité.
Et sur quoi va reposer justement le diagnostic étiologique?
D'abord, elle est un bon examen clinique, rechercher les signes cliniques. Est-ce qu'il y a des signes cliniques, comme on a dit, galactorrhée, donc un examen clinique, des bilans biologiques pour doser la prolactine, est-ce qu'elle est élevée, doser aussi par exemple la TSH pour rechercher donc une hypothyroïdie, parce qu'une hypothyroïdie, la TSH va stimuler la prolactine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de dépression, de terrain particulier, de stress, de dépression? Est-ce qu'il n'y a pas une prise médicamenteuse? Souvent la prise médicamenteuse, elle est oublié, on ne fait pas attention, mais alors qu'on prend d'autres pilules, un antihypertenseur, un antidépresseur, ça peut avoir, il y a beaucoup des médicaments qui peuvent avoir ça. Rarement, donc je veux dire, un contexte de traumatisme crânien avec des séquelles au niveau de la tige pituitaire. Et donc, la prolactine, et s'il y a des signes cliniques particuliers ou si on a une prolactine très élevée, on va faire une IRM cérébrale à la recherche d'un prolactinome, d'une tumeur de cette hypophyse, pour éliminer donc un macroprolactinome ou un microprolactinome avant de proposer un traitement, d'avoir un diagnostic et de proposer un traitement.
En parlant de traitement justement, est-ce qu'il faut absolument traiter une galactorrhée?
Alors, je viens de relire la question aussi. Il faut d'abord différencier. Il y a souvent les femmes qui ont déjà allaité. Je dirais, elles ont encore un petit reliquat en pressant leur sein. Elles peuvent avoir quelques petites gouttes de lait qui va sortir. Mais la galactorrhée, donc il ne faut pas qu'elles s'inquiètent s'il est uniport, unilatéral. La galactorrhée, c'est-à-dire, donc, elle doit, si elle est liée à une augmentation de la prolactine, elle doit être bilatérale, multiport. C'est-à-dire vraiment, quand elle va presser, ça va sortir des deux seins. Donc déjà, donc, je veux rassurer vos auditrices qui... peut sentir un peu de lait de temps en temps au niveau de ses seins, c'est pas vraiment inquiétant. Mais si c'est vraiment persistant et en quantité des deux seins, oui, il faut faire un bilan. Alors, donc, je vous dis, les causes médicamenteuses sont aussi fréquentes, hein, sont parmi les plus fréquentes. Après, on peut voir, par exemple, dans le tiers des cas, je vous dis, il y a une cause tumorale, je dirais, au niveau de l'antihypophyse. Mais dans beaucoup de cas aussi, c'est des hyperprolactinémies biologiques. Et là, il y a un problème par rapport au dosage. La prolactine, des fois, elle est faussement élevée, parce qu'il y a des problèmes de ce qu'on appelle de big prolactine, c'est-à-dire des amas de prolactine qui vont donc coaguler avec les anticorps qui testent. Et donc, ça fausse le résultat. Donc la clinique est importante, corrélée au dosage biologique. Je le répéterai pas jamais suffisamment, s'assurer qu'il n'y a pas de prise médicamenteuse. Et après, donc s'il y a vraiment une galactorrhée avec une aménorrhée, des troubles du cycle, il y a une conséquence sur la sexualité, il faut traiter à ce moment-là.
D'accord. Et justement, quels sont les traitements qui sont proposés? C'est vrai que je sais que ça va être du cas par cas en fonction évidemment des causes, mais quels sont les traitements proposés aujourd'hui?
Alors, je viens de relire la question, je vous dis, par exemple, chez les hommes, et on voit quand il n'y a pas vraiment de conséquences, et surtout que c'est des microprolactinomes sans vraiment de conséquences, et qui sont petits, certains peuvent dire on n'a pas besoin de traiter. D'accord. Mais en général, on traite par... Alors, auparavant, on traitait par une molécule qu'on appelle la bromocryptine. Je ne dirai pas le nom commercial, il y en a un seul. Mais elle a été... C'est la pilule qu'on donnait pour le sevrage d'allaitement. Quand vous voulez arrêter d'allaiter, et ben vous preniez ce médicament pour diminuer la sécrétion lactée. La bromocryptine, elle était assez... Elle avait quand même quelques effets secondaires. Et depuis plusieurs décennies, il y a deux autres molécules qui ont été développées. C'est la cabergoline et la quinadolite. Surtout la cabergoline, qui est beaucoup mieux tolérée et qui a une prise, voire deux prises par semaine, qui est disponible et qui permet de diminuer la sécrétion de prolactine. Et même de diminuer les traitements des adénomes à prolactine.
L'homéopathie aussi, ça fonctionne?
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire vraiment, je n'ai pas de recul par rapport à ça. Je dirais, donc pour les micro-adénomes, on peut les traiter avant, on les opérait forcément. On disait, la chirurgie prime sur le traitement médical. Depuis plusieurs années, on recommande d'abord la cabergoline, qui peut faire diminuer la taille et traiter un micro-adénome et même un macro-adénome. Et donc, la chirurgie, elle devient... passe au deuxième plan, vraiment, s'il n'y a pas de résultat sous traitement. Maintenant, c'est des traitements qu'on va prendre sur plusieurs mois. Bon, ils ne sont pas trop chers et on les prend à une à deux comprimés par semaine. Et on peut les prendre sur plusieurs mois. L'essentiel, c'est d'avoir une surveillance régulière par scanner ou par IRM.
Dernière chose, je pense aux femmes qui font justement de la galactorrhée et qui ont réussi à avoir un premier enfant, avoir un deuxième et qui veulent ajouter un troisième enfant, par exemple. Et qui n'arrivent pas justement malgré le traitement de la galactorrhée. Est-ce que c'est des choses qui arrivent? Comment traiter dans ce cas-là?
Le traitement est efficace. Le traitement est efficace. Et je vous dis, dans 90% des cas, la cabergoline diminue la taille de la sécrétion de prolactine. Et on a beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes justement après la libération, après la freination de cette prolactine. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est simple, c'est mathématique. La prolactine bloque l'ovule, bloque la FSH-LH, qui bloque l'ovulation. Donc quand vous diminuez votre prolactine, eh ben vous arrivez à faire ovuler la dame.
Il faut persévérer.
Je dirais juste une chose, si vraiment il n'y a pas de résultat et que la prolactine reste élevée, soit il faut voir, est-ce qu'il n'y a pas une tumeur sécrétante qu'il faudrait opérer. Il y a aussi des choses... on ne l'a pas dit dans les causes, c'est rare, mais il y a ce qu'on appelle des syndromes paranéoplasiques, c'est-à-dire par exemple des cancers du poumon qui vont avoir une sécrétion de prolactine. Et donc on peut rechercher, je vous dis, d'autres causes, cancer du poumon, radiothérapie de la tête, qui va entraîner une sécrétion de prolactine. Je vous dis, la plupart du temps, la cabergoline donne des résultats.
Merci beaucoup, Michel Malapastagé, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien.